Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Nous allons prendre la direction du Chili en ouverture de ce journal. Le pouvoir cède du terrain devant la mobilisation du peuple. 1 million de manifestants hier dans les rues. Ce soir, le président promet un remaniement complet du gouvernement et la levée de l'état d'urgence. Édouard Philippe mobilisé dans la lutte contre les sargasses. Ce sont des algues brunes très toxiques. Un sommet international se tient ce week-end en Guadeloupe. Le Premier ministre est attendu sur place. Lubrizol indemnisera les victimes de l'incendie de son usine il y a un mois. Les commerçants, les agriculteurs, les acteurs économiques, mais les habitants veulent aussi être pris en compte. Ils ont défilé cet après-midi à Rouen. Il s'appelle Basile Bourgnon, il est l'un des fils de Laurent Bourgnon. Demain, il prendra le départ de la Transat Jacques Vabre. Sa première grande course, son portrait avec Fabrice Rigobert. Et puis en fin de journal, Christine Siméon nous emmènera à la Bibliothèque Nationale de France. Une exposition présente des documents exceptionnels du monde de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux.
France Inter.
C'est une victoire, une première victoire ce soir pour le peuple chilien après leur mobilisation historique hier. 1 million de manifestants contre les inégalités sociales. Le président Sebastián Piñera annonce un vaste remaniement de son gouvernement. Tous les ministres vont remettre leur démission, a déclaré le chef de l'État dans un message à la nation. Et l'état d'urgence sera levé dès demain. Correspondance au Chili pour France Inter, Justine Fontaine.
Il aurait été difficile pour le président chilien de rester muet après des manifestations historiques hier à travers tout le pays. Jamais autant de personnes n'étaient descendues dans les rues, au moins depuis 1988, quand les Chiliens s'étaient mobilisés alors pour dire non au général Pinochet. Hier, beaucoup de manifestants demandaient la démission du président Piñera, très critiqué pour avoir mis en place l'état d'urgence et le couvre-feu dans le pays, des mesures inédites depuis la dictature. Le président avait déjà changé de ton mardi en annonçant une série de mesures sociales, notamment des hausses des minima vieillesse et une aide pour les employés payés au salaire minimum. Aujourd'hui, il fait donc un pas supplémentaire en direction des manifestants. Il n'a pas précisé quand serait annoncée la composition de son nouveau gouvernement, mais il sera par exemple très difficile pour lui de garder son ministre de l'économie, mais aussi son ministre de l'Intérieur, particulièrement décrié aujourd'hui à cause des violences policières qui ont fait des centaines de blessés et plusieurs morts depuis la semaine dernière. Santiago, Justine Fontaine, France Inter.
Édouard Philippe est en Guadeloupe ce soir, est attendu en Guadeloupe ce soir. Le Premier ministre doit participer à une conférence internationale pour lutter contre les sargasses. Les sargasses, ce sont des algues brunes extrêmement toxiques. Elles dégagent notamment de l'hydrogène sulfuré, de l'ammoniac et contiennent aussi de l'arsenic et des métaux lourds. Depuis une dizaine d'années, elles empoisonnent littéralement la vie des habitants des côtes où elles échouent dans les Caraïbes, les Antilles et l'Amérique latine. Laurence Perron.
Les sargasses ne sautent pas aux yeux sur toutes les plages. En Guadeloupe, à Gosier, près de Pointe-à-Pitre, en ce moment, on est épargné, explique Claudine et sa fille Marie-Antège en costume de bain.
Il n'y a pas ici, mais sur d'autres plages, il y a beaucoup. Hein.
Pour l'instant, il n'y en a pas, on ne voit pas, mais peut-être après, au fur et à mesure.
Le Premier ministre, avant de se rendre à la conférence internationale sur les sargasses, fait une halte chez Coco, un restaurant de fruits de mer et de poissons à Anse-Bertrand, dans le nord de la Grande Terre. La plage est jonchée d'algues brunes séchées qui renferment des poches de gaz toxiques. Roméo, le patron, a perdu 3 ans de recettes depuis l'arrivée des sargasses il y a 10 ans.
Donc on a une baisse de clientèle du fait que la baignade devient impossible. Et par la suite, on a un dégagement donc, du gaz qui nous oblige, nous, à quitter les lieux et qui altère en fait les appareils.
En plus de l'odeur et des dégâts causés sur les instruments d'exploitation, il y a aussi des dangers pour la santé.
Moi, j'ai ma mère qui est asthmatique, donc c'est les crises d'asthme à répétition, les conjonctivites.
Pas de langouste vivante, contrairement à ce qu'affiche fièrement le menu de chez Coco. Le Premier ministre va manger simple.
Un petit sandwich à emporter, voilà.
Chez Coco, on n'attend pas la lune.
Alors on n'attend pas de miracle de la visite du ministre, bien sûr, il ne fera pas disparaître les sargasses en claquant des doigts, mais on espère vraiment que les efforts vont se poursuivre.
Les miracles viendront peut-être, Édouard Philippe va s'y engager avec cette résolution qu'il s'apprête à signer afin que la recherche internationale mette le turbo pour régler le problème des sargasses. À Anse-Bertrand, Guadeloupe, Laurence Perron, France Inter.
À Barcelone, les indépendantistes de nouveau dans la rue ce soir. Manifestation de soutien aux dirigeants séparatistes condamnés il y a 2 semaines, vous en souvenez certainement, à des peines allant jusqu'à 13 ans de prison. Et des affrontements s'en étaient suivis faisant 600 blessés manifestants comme policiers. 2 semaines après donc, 350 000 personnes se sont à nouveau mobilisées pour réclamer l'indépendance de la Catalogne. Manifestation suivie pour France Inter par Juliette Gey.
La manifestation vient de se terminer. Les dirigeants politiques ont pris la parole devant la foule qui a rassemblé aujourd'hui 350 000 personnes dans le centre de Barcelone. Le cortège a eu du mal à se mouvoir tant les manifestants étaient nombreux. Ils portaient sur le dos des drapeaux catalans, bleu, rouge et jaune, et scandaient « Liberté aux prisonniers politiques, vive la République catalane, indépendance ». Les organisateurs ont voulu faire de cette mobilisation la plus importante depuis celle d'il y a 8 jours, où 525 000 Catalans étaient descendus dans la rue pour demander la libération de leurs ex-dirigeants. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'était transversal et une centaine d'organisations culturelles ainsi que tous les partis politiques souverainistes se sont joints au mouvement. Quim Torra, le chef du gouvernement catalan, était également présent. Soutenu par plus de 800 maires qui ont fait le déplacement jusqu'à Barcelone, il a affirmé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible sur le chemin de l'autodétermination de la Catalogne.
Juliette Jay en correspondance pour France Inter à Barcelone. Et demain, les anti-indépendantistes qui soutiennent ces condamnations de séparatistes doivent défiler à leur tour, toujours à Barcelone. En Argentine, c'est une élection présidentielle qui se prépare en pleine crise économique, la pire depuis 17 ans. 40% d'inflation en quelques mois, une hausse de la pauvreté de 35%. C'est donc dans ce contexte extrêmement tendu que les électeurs sont appelés aux urnes demain. Deux modèles se présentent à eux. Le chef de l'État sortant, un libéral, est en difficulté face aux péronistes qui pourraient revenir au pouvoir 65 ans après leur modèle, le général Perón, qui avait présidé l'Argentine après la Seconde Guerre mondiale. Après la découverte de corps dans un camion en Angleterre près de Londres, le chauffeur du véhicule principal suspect, on l'apprend, vient d'être inculpé pour ses 39 homicides involontaires. Deux autres personnes sont également en garde à vue, suspectées de trafic d'êtres humains. Notre passé sans Lubrizol, notre avenir sans le cancer. Un mois, jour pour jour après l'incendie de l'usine chimique, une nouvelle manifestation cet après-midi devant le palais de justice de Rouen. 300 personnes selon la police inquiètes face aux conséquences possibles de cet incendie. Des associations, des syndicats et des partis politiques, notamment plusieurs élus écologistes et socialistes. La promesse de Lubrizol d'indemniser les entreprises, les commerçants, les agriculteurs, cette promesse formalisée hier en présence du Premier ministre, n'a pas apaisé leur colère. Catherine habite Mont-Saint-Aignan, au nord de Rouen.
Je suis en colère qu'il y ait très peu de choses de faites, qu'on n'ait pas d'informations, qu'il n'y ait pas des choses qui soient mises en place dans une région hautement dangereuse, qu'il n'y ait pas eu le jeudi de l'incendie les 13 communes touchées où les sirènes n'ont pas sonné, sous prétexte qu'on se serait affolé. On n'a aucun entraînement comme les Japonais peuvent être entraînés au risque tremblement de terre, tsunami. On n'a pas ça. Or, on a été hautement intoxiqués, on l'est encore. Hier soir, j'ai reçu des amis, ça puait, et aujourd'hui, ça fait un mois.
L'incendie de Lubrizol et ses conséquences, c'est un dossier complet à lire sur notre site franceinter.fr. C'est un projet qui divise Europa City à Gonesse dans le Val d'Oise, un projet de méga complexe immobilier, de commerce, de loisirs entre Roissy et le Bourget. Il y a 3 semaines, plusieurs centaines de personnes dénonçaient la disparition de terres agricoles. Eh bien aujourd'hui, ce sont les partisans qui se sont rassemblés, 250 personnes, essentiellement des habitants du département, qui espèrent la création de 10 000 emplois. Sauver la planète, oui, sauver la banlieue aussi, disent-ils. Nourdine Mahatoug est l'un des fondateurs du collectif des Vrais Gens, cette association d'habitants du Val d'Oise qui défendent le projet.
Le projet d'Europa City a signé lors des débats publics le fait qu'ils allaient embaucher 75% sur le territoire. On aura besoin de gens qui s'y connaissent en termes de culture, en termes de musée. On va avoir besoin de gens qui font de l'hôtellerie et on va y avoir une base de loisirs, donc on aura besoin d'animateurs. 10 000 emplois, quand on peut en avoir 7 500 chez nous, on crache pas dessus. S'ils nous avaient dit on n'en donne que 3 000, on aurait été d'accord aussi. Parce qu'au fait, aujourd'hui, on est dans une zone où justement on n'a rien. On n'a rien. Donc arrivé un moment, quand vous avez des projets qui viennent s'installer chez vous, mais il faut savoir les accueillir. J'appelle les ministres et j'appelle le président à venir sur le territoire. Il verra un petit peu dans quelle misère vivent les gens chez nous. Parce que là, on n'est pas à l'Élysée, on n'est pas à Neuilly ou dans le 16e. Là, on est à Villers-le-Bel, Gonesse, Sarcelles, Arnouville. On est dans un secteur où il y a plus de 70% de chômage chez les jeunes. Donc arrêtons. Si ce projet s'arrête, c'est l'abandon de la banlieue. Et ils en assumeront les conséquences derrière. On a eu les émeutes de Villers-le-Bel. On sait qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer. Si les jeunes n'ont pas un peu d'espoir, arrivé à un moment, ils vont nous lâcher dans les bras.
Voilà, la création d'emplois, c'est précisément l'argument qui divise. Les opposants n'y croient pas, considèrent que ce projet aura au contraire des répercussions néfastes pour les commerces du Val d'Oise. L'hommage à Rémi Fraisse aujourd'hui, 5 ans jour pour jour après la mort de ce jeune militant écologiste victime d'une grenade offensive lancée par un gendarme. Il faisait partie des opposants au barrage de Sivens dans le Tarn. 200 personnes se sont rassemblées ce matin dans une forêt tout près du site où s'est déroulé le drame. Ce décès a eu pour conséquence, je le rappelle, l'interdiction définitive des grenades offensives quelques mois plus tard. Des gilets jaunes étaient présents à cette commémoration. Les gilets jaunes qui appelaient par ailleurs une nouvelle journée de mobilisation nationale à Saint-Étienne. 500 personnes pour cette manifestation qui a donné lieu une nouvelle fois à des face-à-face tendues avec les forces de l'ordre et des jets de gaz lacrymogène. À Besançon, un homme déféré devant la justice cet après-midi, soupçonné d'avoir participé au passage à tabac d'un agent SNCF devant la gare jeudi soir avant de prendre la fuite. Il sera présenté dès lundi en comparution immédiate et un autre suspect est recherché. L'agent SNCF avait voulu secourir une jeune femme qui était en train de se faire agresser par un groupe sur le parvis de la gare. France Inter, 19h11, demain précisément, 13h. 15, le départ de la Transat Jacques Vabre. 59 bateaux s'élanceront du port du Havre, destination Salvador de Bahia au Brésil. Parmi les skippers engagés dans la catégorie des classes 40, les bateaux de 12 mètres, Basile Bourgnon, l'un des fils de Laurent Bourgnon, il est le plus jeune, le benjamin de cette compétition. Et c'est sa première grande course, 4 ans après la tragique disparition de son père au cours d'une plongée sous-marine en Polynésie. Rencontre avec Fabrice Rigobert.
La ressemblance physique est troublante, la carrure est sensiblement la même, le regard bleu aussi, sa voix douce est posée à seulement 17 ans. Basile Bourgnon marche sur les traces de son père, disparu dans un accident de plongée. Avant ce qui sera sa première Transat en course, le plus jeune skipper de la flotte assume le poids de son nom inscrit dans l'histoire de la voile.
Ça fait toujours du bien d'en entendre parler, j'en suis fier en tout cas de mon père, fier de ce qu'il a fait. Voilà, il m'a appris pas mal de choses, tout ce qu'il savait sur un bateau, sur l'eau, à terre, tout ça je le tiens de lui.
Bac en poche avec un an d'avance, étudiant en génie des matériaux à l'IUT de Nantes, Basile Bourgnon s'est testé sur de nombreux supports depuis son premier dériveur offert par son père pour ses 6 ans. La mer est son élément, souligne Emmanuel Leroc, ancien coéquipier de son papa qui a décidé de l'embarquer sur Eden Red.
C'est naturel chez lui d'être sur l'eau, le bateau gîte, ça bouge dans tous les sens, il sent comme à la maison, il n'y a pas d'appréhension, le vent monte, il y a un grain, un orage, bon voilà, c'est comme ça, on s'adapte. Et Laurent a été comme ça aussi. À mon avis, il va aller très loin. On entendra parler notamment de son nom et de son prénom.
Et Basile il sait déjà jusqu'où il veut aller. Le Vendée Globe, pourquoi pas, avec en point de mire un maxi trimaran ultime. Les Bourgnons ont les multicoques dans le sang, explique-t-il, le sourire aux lèvres. Le Havre, Fabrice Rigobert, France Inter.
La meilleure attaque, c'est la défense. L'analyse à Malin d'Eddie Jones, le sélectionneur du 15 de la Rose après la victoire de son équipe en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby au Japon, 19-7 face aux All Blacks, qui n'ont pas réussi à développer leur jeu. C'est donc l'Angleterre qui ira en finale. Et c'est tout à fait justifié pour le consultant de France Inter, Guy Akosseberry.
Logique méritée, grosse maîtrise de l'équipe anglaise qui a joué à son niveau, et elle a joué comme elle joue maintenant depuis quelques saisons, comme elle joue depuis le début de la Coupe du Monde. Donc elle a été très bonne, elle a été efficace dès le début de match en marquant un bel essai, en prenant le score. Elle a su gérer ses temps faibles, elle a été monstrueuse en défense. Voilà, elle fait une erreur cette équipe, elle prend 7 points. Et elle ne prend pas d'autres points, c'est ça qui est assez incroyable. Ils ont su en fait complètement museler cette équipe All Black, qui elle par contre n'a pas été à son niveau habituel, qui n'a pas trouvé les solutions de solutions offensives. Il leur manquait peut-être, moi dans les générations précédentes, ils ont toujours derrière un ou deux joueurs un peu hors normes, capables de les faire avancer dans des situations compliquées. Là aujourd'hui, ils n'avaient pas ces joueurs-là, quoi, et ils n'ont pas su trouver des solutions. Ils ont même fait beaucoup de fautes techniques. Ils ont manqué des passes, ce qui est très rare chez eux. Donc voilà, une équipe néo-zélandaise sous pression qui perd ce match, et félicitations aux Anglais qui eux méritent bien de le gagner. Oui.
Et les Anglais qui connaîtront leurs prochains adversaires demain matin, le Pays de Galles qui a éliminé le 15 de France. Rappelons-le, ou l'Afrique du Sud, coup d'envoi de cette seconde demi-finale à 10h. Le ski alpin et cette surprise dans le slalom géant de Sölden en Autriche, la victoire d'une toute jeune skieuse de 17 ans, Alice Robinson, une néo-zélandaise qui a remporté sa première victoire en Coupe du Monde pour l'épreuve d'ouverture de la saison. Elle a devancé l'américaine Michaela Schifrin et la française Tessa Worley, qui prend donc la troisième place malgré une opération genou droit en avril qui avait retardé sa préparation. Un rappel, n'oubliez pas de régler vos réveils, vos montres. Ce soir, avant de dormir, on va passer à l'heure d'hiver. À 3h du matin, il sera 2h, ce qui fera, théoriquement, une heure de sommeil en plus. Ma vie connectée, comme chaque samedi, nous vous retrouvons Christine Siméon pour votre chronique numérique. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
La Bibliothèque nationale de France vous a ouvert ses portes sur un joli trésor cette semaine, les archives et les documents relatifs au monde de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux et de Bilbo le Hobbit qui passionne des milliers de lecteurs et de fans. La BNF a rassemblé des centaines de documents, des manuscrits, des illustrations originales dans une exposition. Vous l'avez vu et vous êtes allé un peu plus loin.
Alors oui, au-delà des manuscrits, des aquarelles, de la main même de l'écrivain, l'imagerie médiévale que Tolkien suscite dans l'esprit des lecteurs, la BNF a voulu la nourrir avec les images qui se cachent dans les livres rares et très anciens qu'elle détient. Même si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, vous retrouverez en allant sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, par exemple, un manuscrit datant du XIIe siècle dans lequel apparaissent déjà des dragons. Ce manuscrit est un Beatus, un ouvrage concernant l'Apocalypse de Saint Jean. Écoutez Frédéric Manfrin, l'un des commissaires.
Comme vous le voyez dans l'exposition, il est très original par les couleurs. Ce fond orange et ce fond violet sont relativement rares dans l'enluminure médiévale. On est plutôt dans des bleus et des rouges d'habitude. Et il est très intéressant par la variété des dragons. Et c'est ce qui a fait qu'on a privilégié le Beatus de Catalogne du XIIe siècle plutôt que des manuscrits plus anciens.
Les dragons, dans les histoires de Tolkien, sont tirés de récits anciens allégoriques.
Lui étant catholique pratiquant, il les sort d'abord de la tradition chrétienne, et c'est pourquoi un apocalypse est tout à fait à sa place. Mais il les sort aussi des mythologies nordiques. C'est le fameux Fafnir chez les Nordiques, qui est aussi dans ses sources d'inspiration. Et on le trouve aussi dans Lancelot et dans le cycle arthurien. Donc en fait, c'est différentes origines pour un concept du dragon à l'occidental que Tolkien réutilise, réemploie pour créer ses propres dragons.
Autre sujet sur lequel vous pourrez également passer des heures, ce sont les langues inventées par Tolkien. Il n'a écrit ces histoires que pour leur permettre de s'exprimer.
Et on le voit sur les documents présentés dans l'exposition, Tolkien a fabriqué des vocabulaires imaginaires, il a conçu leur calligraphie, inventé des notes étymologiques pour les mots et des grammaires fictifs. En clair, Christine, il a inventé des langues.
Ces langues, il les a même parlées. En témoignent plusieurs enregistrements de sa voix, faits par lui-même. Il lit ici le poème Namerié en langage kenya, extrait du Seigneur des Anneaux. Je traduis. Ah, comme l'or, tombent les feuilles dans le vent, de longues années innombrables comme les ailes des arbres. Les longues années ont passé, pareilles à de rapides gorgées, de l'hydromel sucré dans les hautes salles au-delà de l'ouest, sous les dômes bleus de Varda, où les étoiles tremblent, dans le chant de la voix sainte de la reine. Namarié provient du Kwenya, Anamarié, qui signifie littéralement « soyez bien », une formule elfique qui se traduit généralement par « adieu ».
Franceinter.fr pour retrouver ces lectures de Tolkien en personne, les traductions de ces langues. L'expo à la BNF est ouverte jusqu'au 16 février. Merci Christine.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Et le temps va se rafraîchir demain dans le nord de la France. Les prévisions sont signées Jean-Michel Golinski de Météo France.
Différence sensible de temps et de température demain entre le nord et le sud du pays avec un lever du jour maussade entre le nord de la Loire et la frontière belge. En journée, un peu de soleil viendra égayer l'ambiance sur les départements situés près de la Manche, tandis que le temps pluvieux va gagner l'après-midi vers le Poitou-Charentes, le centre et la Lorraine. Il est à remarquer que de la Bretagne à la Normandie et du Val-de-Loire au nord de la Seine, le vent va s'orienter au secteur nord, d'où les températures en forte baisse et souvent plus élevées en fin de nuit qu'en cours d'après-midi, avec des maximales plafonnant à une dizaine de degrés entre Rennes, Lille, Rouen, Reims, Tours et Paris. Plus bas, les valeurs vont stationner un peu comme aujourd'hui entre 20 et 25 degrés avec le maintien d'un large ensoleillement au sud d'un axe Arcachon-Moulin-Forbach, sauf dans le golfe du Lion en raison d'imposantes entrées maritimes et automne oblige. pluges, il y aura souvent des brouillards dans les vallées humides en tout début de journée.